d'empire, Néron, Philippe, Célibulaire.
Et on vient de commencer, il n'y a pas de problème. Et un héros important, c'est Caeso le Prétorien, qui mène des enquêtes dans la Rome du 1er siècle. Et puis, Pilia de Sparte, là, c'est à Sparte, en Grèce, hein,
comme son nom
l'indique. Et puis, Anne-Sophie Sylvestre, qui a inventé le personnage d'Atalante pour parcourir l'histoire grecque.
La mythologie
grecque. Un mélange. On en parlera un peu plus longuement aussi, parce que vous allez nous expliquer ces livres. Alors, la Grèce et les littératures de l'imaginaire, ou plutôt la mythologie et les littératures de l'imaginaire, ça intéresse pas mal de gens, le monde, et je tiens à vous préciser qu'il y a le jeudi 7 juin, le vendredi 8 et le samedi 9, dans différentes villes, un grand colloque sur l'Antiquité et la science-fiction et la fantaisie. C'est à Rouen, et puis à Paris deux fois. Alors il y a des interventions du genre l'imagerie romaine dans les combats gladiateurs, dans la fiction spéculative, aux origines du héros de fantasy d'Hercule à Conan, le personnage du Scolias dans Ilium et Olympos de Dan Simmons, vous voyez, ça monte la barre très très haut, de la marge à la trame, le personnage de Rome à Westeros, éléments d'historiographie des religions romaines dans les bouquins de George Martin. Il y a aussi les moutons électriques reptiles d'Héraclite, l'Antiquité de Philippe K. Dick. Et je crois d'ailleurs que et Nathalie et Fabien ont participé à des conférences des tables rondes d'écrivains dans ce colloque. L'Antiquité. Pourquoi, Christina, placer votre héros dans l'Antiquité romaine?
Moi, c'est une période qui m'a toujours passionnée parce que je suis d'origine espagnole, je viens du nord de l'Espagne et j'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle León. C'est au nord de la Castille et c'est là-bas qu'était basée la 7e Légion, c'était la Légion romaine d'Hispanie et j'ai grandi rue de la 7e Légion. Entre un grand-père historien et un arrière-grand-père archéologue, moi je suis comme Obélix. Je suis tombée quand j'étais petite.
Anne-Sophie.
Bah écoutez, moi, je suis un petit peu intimidée parce que Atalante, c'est vraiment une toute petite chose. À côté, vous êtes tous de vrais spécialistes de l'Antiquité. Atalante, c'est une idée qui m'était venue comme ça. J'aimais énormément ce personnage quand j'étais enfant. Atalante, c'est la fille qui court plus vite que tous les garçons. J'étais un peu un garçon manqué. C'était un concept qui me plaisait énormément. J'aimais beaucoup le sport aussi. J'ai eu envie d'écrire, c'était un tout petit roman, le premier qui racontait la légende d'Atalante d'une façon un peu moderne. En fait, je suis partie du personnage qui m'a emmenée dans cette mythologie grecque. Et puis, je me suis attachée à elle, mes lecteurs aussi. Tout le monde a eu envie qu'il y ait une suite des aventures d'Atalante. Et voilà, on en a fait 4 volumes. Atalante a parcouru la Grèce antique, la mythologie. En fait, c'est un mélange d'histoire et de mythologie parce que elle se promène aussi bien sous les remparts de Troie qu'elle croise le Minotaure. Enfin,
c'est adressé à quel lecteur?
Plutôt les jeunes, mais tout le monde. Je sais pas, tous les gens qui veulent bien le lire. Mais en général, la majorité, ce sont de jeunes lectrices, disons 12-14 ans.
Nathalie, qu'est-ce qui vous fascine dans l'Antiquité?
Moi, ce qui me fascine déjà, ce sont les mythes en général. Et dans l'Antiquité, j'ai plusieurs époques de prédilection. J'adore l'histoire, mais c'est vrai que je me sens plus à l'aise dans les périodes préhistoire, Antiquité et tout début du Moyen-Âge. C'est le plaisir d'explorer des époques qui sont celles dans lesquelles j'aurais probablement aimé vivre s'il y avait eu la DLC.
Quand on est directrice de l'anthologie Les enfants, les fils d'Homère,
les héritiers d'Homère,
les héritiers d'Homère, qu'est-ce qu'on donne comme consigne aux futurs collègues qui vont écrire là-dedans?
La consigne, c'est « Souvenez-vous que le mythe est un matériau vivant ». Donc, en fait, c'est une collection d'anthologies qui explore à chaque fois un corpus mythologique. Et on leur demande, que ce soit pour les Grecs ou pour les Celtes, comme je l'avais fait précédemment chez Stephen M, ou pour les Amérindiens qu'on a fait ensuite et les autres qui arrivent, je leur demande de faire le travail un petit peu de la tradition orale, c'est-à-dire s'emparer des thèmes mythiques comme le faisaient autrefois les Aèdes ou les Bardes, et de raconter leurs propres histoires. Ça peut être boucher des trous, ça peut être croiser des histoires que les textes anciens ne croisent pas, ça peut être les prendre à contre-pied, les dédiaboliser lorsqu'elles nous sont parvenues via le filtre chrétien des moines copistes, ça peut être les transposer, bref, s'amuser avec et retrouver cet esprit des anciens dans une forme écrite, puisque notre civilisation, elle, est celle de l'écrit.
Et Fabien, lui, il englobe tout le titre de cette conférence, puisque c'est « Et Rome, et la Grèce, et les barbares ».
C'est exprès. Ça m'a pris des années, mais j'ai enfin réussi à avoir tout ce qu'il faut.
Pour, écrit classé.
Voilà, c'est ça. En fait, il y a plusieurs manières d'aborder l'Antiquité et ses suites. Par exemple, on parle beaucoup, justement, on va parler un peu des racines chrétiennes, des racines celtiques. Les racines de l'Antiquité gréco-latine, c'est vraiment pour moi ce qui est au fondement de la culture européenne, en grande partie. Et dès qu'on étudie n'importe quel sujet, on en revient toujours là. Donc, quand on écrit de la fantaisie aussi, sans revenir au mythe, effectivement. Donc on est toujours obligé de revenir à ça.
Dans les aventures de Kézo, Rome, en fin de compte, ce n'est qu'un décor, ou est-ce que Rome fait vraiment partie de l'histoire et du personnage?
Elle fait partie du personnage quand il y est, parce que c'est vrai que les aventures de Kézo se passent un petit peu partout en Italie. On commence à Pompéi, ensuite on vient à Rome, et là le prochain tome va se passer en Égypte, Alexandrie.
Mais c'est toujours l'Empire romain.
Et c'est vrai que l'Empire romain, quelque part, c'est un personnage en lui-même, parce qu'il y a 80 000 façons de l'aborder. On peut voir les bafons, on peut voir les bobos romains, c'est génial comme ambiance. Il y a plein de choses à faire avec Rome. Mais c'est vrai que Rome est un personnage en lui-même.
Et pour vous? Oui, Fabien.
Oui, pardon.
Donc, c'est un décor, c'est un personnage, c'est plus, ça fait partie intégrante du livre.
Comme ça ne se passe pas réellement à Rome, le premier, par exemple, qui se passe avec l'histoire d'Onireus, le dernier Odyssée, qui est un retour d'un guerrier grec chez lui, mais ce n'est pas Ulysse, c'est un autre que j'ai. Le personnage existe, il est mentionné une seule fois dans l'Iliade, donc j'imagine tout le reste. Donc là, c'est toute la Grèce qui devient un décor, effectivement, où là, il y a l'idée d'avoir quelque chose, de faire référence vraiment à la Grèce. Et puis d'ailleurs, c'est un décor imaginaire, puisque, par exemple, il n'y a pas d'hiver. Il n'y a jamais de neige, ça fait partie d'ailleurs d'un des thèmes de l'histoire, c'est en éternel été, donc c'est revisité. Et pour le reste, en fait, je ne suis jamais dans Rome, en fait. Je suis toujours en dehors de Rome. Rome n'est plus dans Rome, hein, comme d'habitude. Donc c'est surtout un esprit, des références, et ce qui est agréable justement c'est de l'étendre, d'en faire un matériau vivant, et de s'éloigner de ce qu'on pourrait attendre aussi.
En fait, chez Christina, l'histoire s'implante dans la Rome, mais il n'y a pas d'imaginaire véritablement, il y a assez réaliste.
Non, là c'est vraiment, on est dans les polars historiques, donc je ne peux pas me permettre des fantaisies qu'on pourrait retrouver lorsqu'on fait un mélange justement d'histoire et de fantastique. Donc moi je suis vraiment obligée de me tenir à l'histoire, mais sans pour cela embêter tout le monde, parce qu'il y a une grande différence entre raconter une histoire à quelqu'un et lui faire un grand histoire. Moi mon but c'est pas de faire un grand histoire. Donc il faut que je reste suffisamment ancrée dans l'histoire pour que le lecteur puisse rentrer dedans comme s'il était chez lui, que ce soit naturel. Et pour ça, c'est vrai qu'il faut très très bien connaître l'époque
est très très bien connue. On en parlera. Anne-Sophie, votre Atalante, elle recouvre plusieurs époques, donc c'est pas un personnage historique, c'est un personnage mythologique. Vous avez, vous faites appel à l'imaginaire aussi pour ça, ou vous re-racontez les légendes et les mythes?
C'est un énorme mélange, je dirais. je les re-raconte un petit peu, je les réimagine aussi. C'est, en fait, mon personnage les aborde et j'essaye d'imaginer comment moi je les aurais vus. Nous parlions hier justement de l'imaginaire dans le roman historique. Je disais que pour moi, tout cadre de roman est un monde imaginaire, alors particulièrement celui-là. Mais c'est mélangé aussi, j'ai beaucoup voyagé en Grèce, en Asie mineure, beaucoup de sensations, beaucoup de paysages que j'ai vus là-bas ressortent, beaucoup d'expériences que j'ai faites, on navigue beaucoup, j'ai beaucoup navigué aussi. Il y a des choses qui ne changent pas du tout, comme le bruit de la mer sur un bateau, d'une vague sur un bateau. C'est quelque chose qui m'émeut beaucoup, c'est que c'est quelque chose qui n'a pas du tout changé pendant les siècles et les millénaires, etc. Et je me suis et pour en revenir au mythe, en effet, ben pour certains, je me suis permis de prendre des libertés avec, de les réinterpréter, mais ce sont des mythes, donc je me suis dit qu'on avait le droit, on n'était pas obligé de se figer sur une légende telle qu'elle a été écrite, parce que vous disiez un petit peu, je les ai rendus vivants et j'ai voulu que ça. Je les ai décrits tels que mes personnages m'y enlèvent dedans.
D'ailleurs, même dans les mythes antiques, pour certains, il existe plusieurs versions selon qu'on lise Hérodote, Homère. Voilà,
exactement.
Même c'est des anonymes.
Par exemple, certains jeunes lecteurs, parce qu'eux, ils ont des mythologies très précises. On dit, c'est pas normal que Icare ne meure pas de sa chute. Et or, tout ce que j'ai lu, on ne dit jamais que Icare est mort, on dit qu'il tombe, c'est tout. Voilà. Alors, est-ce que je leur réponds à chaque fois? Ben non, il tombe. Et on a le droit de trouver une suite qui fait qu'il n'en meure pas. Mais alors, les jeunes lecteurs, justement, ils sont très très sévères.
Dans l'anthologie, l'imaginaire peut amener à quelle dimension? On prend le mythe et on le triture pour en faire quoi? Racontez-nous peut-être l'une ou l'autre intrigue de cette anthologie.
Alors il y a par exemple une pièce courte écrite par Claire Jacquet qui s'appelle La mort d'Héraclès et qui est humoristique. Elle imagine que donc ça se passe vraiment dans un décor de Grèce antique avec le coryphée, le chœur qui interviennent. Et simplement, Chiron, le centaure, est un représentant en lessive. Et il propose à Déjanire donc d'acquérir une lessive qui a des enzymes gloutons particulièrement efficaces. Et en même temps, il cherche à la séduire parce qu'il a des appétits, hein, c'est un centaure. Et ils vont laisser le chiton d'Hercule dans la lessive et les enzymes gloutons vont un petit peu imprégner le tissu pendant que eux s'en vont en l'air. Et lorsque Hercule revient, donc sa femme coupable, enfin, qui se sent coupable même si lui ne sait rien, l'accueille. Lui, ben, il a croisé Chiron sur le retour, comme il est raciste, il n'aime pas les centaures, il l'a tué, juste parce que comme ça, il passe sur un centaure, paf, il le tue. Donc elle flippe un petit peu. Et elle lui dit, mais regarde, je suis une bonne épouse, j'ai lavé ton chiton, il est tout propre. Donc il le met, et c'est la tunique de Nessus, n'est-ce pas? Il est. C'est Nessus, pardon, je me trompe, c'est pas qui. Et donc là, les enzymes gloutons se mettent à le ronger, et il meurt. C'est pas le sang du centaure, c'est les enzymes gloutons. Donc c'est une parodie, une réécriture, très drôle. C'est un exemple de nouvelle version avec toujours le chœur et le coryphée qui viennent, qui font des commentaires vraiment dans l'esprit des textes antiques, des pièces de théâtre antiques. Et si je peux en citer un autre, vous avez par exemple Sémélé de Philippe Guillot. Si on ne connaît pas le mythe de Sémélé, on ne comprend pas la nouvelle. Sémélé, c'était une jeune femme dont Zeus s'était déprise et elle a demandé à son amant de se révéler à elle dans l'éclat de sa gloire. Elle a fini foudroyée. Elle était déjà enceinte de Dionysos, donc il a prélevé l'embryon qu'il l'a mis dans sa cuisse, et c'est lui qui a fini la grossesse. Mais le texte, ça raconte ça. Ça raconte. Ça se passe dans le futur. C'est un vrai texte de science-fiction. Il y a des personnes, des hommes qui sont envoyés dans l'espace pour collecter des matières premières que la Terre ne produit plus. Ils sont en scaphandre, ils vivent tellement longtemps isolés à collecter ces matières qu'ils deviennent fous. Pour les gens qui sont restés sur Terre, ils sont des dieux vivants, puisque c'est grâce à eux qu'ils amènent l'énergie dont nous avons besoin. Et lorsqu'ils descendent sur Terre, toutes les femmes s'offrent à eux. Et le problème, c'est que comme ils sont devenus fous, quand elles les voient dans leur intimité, dans l'éclat de leur corps, le masque tombe, comme Zeus avait fait tomber son masque d'humain, elles finissent foudroyées parce que comme ils sont fous, ils les massacrent. Voilà, quelques exemples.
Fabien, l'imaginaire peut amener à tout, mais vous devez, dans les livres que vous avez écrits à partir des mythologies et des légendes, ou des écrits d'Homère, est-ce que vous devez vous appuyer sur quelque chose, vous pouvez tout vous permettre?
Ça dépend complètement du livre. Moi, ce que je trouve dommage parfois, c'est justement qu'on pille les mythologies antiques sans, en prenant que des choses déjà très connues, sans les soit aller au fond et vraiment chercher des choses peu connues qui appartiennent malgré tout à la mythologie. Donc, par exemple, pour la dernière Odyssée, je suis allé chercher des monstres qui sont beaucoup moins connus, comme des ichthyocentaures ou...
qu'on trouve dans les...
Des reptiles, oui, bien sûr, oui. Alors c'est des créatures souvent plus tardives, des créatures qui sont plutôt utilisées comme motif de décoration, donc il n'y a pas beaucoup de mythes écrits autour, mais ce sont des créatures qui existent, mais qu'on connaît beaucoup moins. Et ça c'est l'intérêt, donc là vraiment c'est un intérêt d'aller fouiller des choses que personne ne connaît. Mais après le plaisir par exemple, c'est d'aller chercher, par Fourore par exemple, c'est un roman qui raconte la défaite des légions de Varus. Je ne sais pas si vous connaissez, en gros, en 9 après Jésus-Christ, les Romains se disent on va mettre les Germains à genoux. Ils envoient 3 légions dans les forêts germaines. Les Romains sont assez effarés par la taille des arbres et des chaînes gigantesques qui leur paraissent habitées par des dieux, etc. Ils sont trahis par l'un de leurs alliés, qui se trouve être un Germain, qui retourne sa veste à ce moment-là, alors qu'il a été élevé à la romaine et tout. Quelque chose d'assez inattendu finalement pour eux, et ils se font massacrer. Il ne reste plus rien. Hein, quelques années plus tard, on revient entre les eaux blanches. Donc moi je suis parti de là, je me suis vraiment renseigné pour que ce soit vraiment très précis, parce qu'aujourd'hui on ne sait plus exactement où s'est passée la bataille, il y a différentes théories, j'ai pris la plus récente. Donc tout ça est vraiment décrit de façon extrêmement stricte, il y a des objets qui apparaissent dans l'histoire, qui sont des objets qu'on a retrouvés sur les sites de fouilles, etc. Mais par contre, moi mon plaisir dans ces cas-là, ma manière de ne pas ennuyer le lecteur avec un cours d'histoire, c'est de rajouter des trucs. Et là, par exemple, il y a une pyramide noire sur laquelle les soldats tombent et qui se trouve être radioactive. En tout cas, le lecteur contemporain comprend qu'elle est radioactive et qu'elle n'a rien à faire là. Et les Romains, eux, vont l'interpréter avec leur esprit antique, avec leurs propres références, comme un temple, un dieu mécontent, justement, qui pourrait foudroyer éventuellement les humains qui auraient vu ce qu'ils n'auraient pas dû voir. Voilà, donc moi mon plaisir dans ces cas-là, c'est de rajouter un élément un peu incongru et de confronter les deux aussi.
Christina, dans la Rome de Caevaux, il y a beaucoup de superstitions, de dieux nombreux. Comment est-ce qu'un détective comme votre héros peut s'y retrouver et jouer son rôle de détective? Je suppose qu'il ne ressemble ni à Philippe Marlowe, ni à Arsène Lupin, Arsène Lupin n'est pas détective, pardon, ni à Hercule Poirot, voilà. Comment est-ce qu'il parvient à démêler les intrigues?
Disons que lui, quelque part, il ne se pose même pas la question, parce qu'il a été élevé dans ce monde-là. Donc, j'ai envie de dire qu'il est aussi superstitieux que tout le monde. Donc, je sais pas comment répondre à votre question, en fait. Parce que... pour lui, c'est naturel, il est comme tout le monde en fait. Donc il n'a pas besoin de démêler, le vrai du faux. Il est comme ses contemporains.
Mais le lecteur, lui, il a besoin.
Oui, le lecteur, je pense que le lecteur, avec ses connaissances, il se rend bien compte ce qui fait partie de la mythologie et ce qui fait partie de la réalité. J'arrive pas à comprendre.
Non, je veux dire que beaucoup de ces intrigues peuvent avoir des causes dans le monde des esprits, dans le monde des sorciers et des sorcières, et que souvent on pourrait à Rome dire, après tout, c'est une cause surnaturelle, nous n'avons pas à nous en mêler.
Oui, c'est vrai que dans les, à partir, il y a une enquête en fait qui concerne un oracle d'Apollon, c'est ça?
Oui, tout à fait. Voilà.
Oui, non, c'est vrai que, mais c'était courant dans l'Antiquité. Il y avait beaucoup déjà de maroulins, c'est-à-dire des gens qui se faisaient passer pour des envoyés de Dieu, mais les Romains étaient au courant déjà. Et c'est comme aujourd'hui, il y avait des gens très naïfs qui vont aller acheter l'anneau qui ramène l'époux qui est parti plus vite que la redoute, et puis il y a des gens qui savent très bien que c'est des bêtises et qui ne vont pas aller donner 15 euros pour acheter une amulette. Donc dans l'Antiquité, déjà, il y avait beaucoup de ça, mais les gens étaient au courant.
Est-ce que ce travail sur l'Antiquité vous oblige à avoir, Anne-Sophie, une documentation très particulière et à ne pas différer de la réalité historique?
Ah oui, bien sûr. Le plus possible, le plus possible de documentation. Beaucoup de lectures de ce qui nous reste de l'Antiquité. Mais, comme vous disiez, Hérodote, Homère, plus le travail des historiens. Comme j'aborde beaucoup de sujets, il y a eu beaucoup de sujets à approfondir. Particulièrement quand il y a eu celui des Amazones, ça a été une recherche très passionnante parce que je ne connaissais pas grand-chose sur ce peuple des Amazones. Et en fait, pour ça, heureusement, il y a beaucoup d'historiens qui ont travaillé. Oui, en effet, j'ai eu beaucoup à lire et c'était très très passionnant comme recherche.
Fabien en parlait tout à l'heure aussi.
Excuse-moi si je peux juste intervenir. Il y a aussi une chose qui a été démontrée par Georges Dumézil dans Mythes et Épopées, donc en mythologie comparée, c'est que les Celtes révèlent leur histoire, donc les événements historiques qui les concernaient, ils avaient tendance à en fabriquer des mythes, alors que les Romains, à l'inverse, historicisaient leurs mythes. Donc ils prenaient leurs mythes et ils les transformaient en événements historiques qu'ensuite on peut démontrer, non, ça n'a jamais existé, c'est un mythe qu'on nous présente comme un événement historique.
Ça a beaucoup sérieusement pris.
Et Fabien, comme lui, il va dans plusieurs mondes, il a besoin d'une documentation multiple.
Oui, il faut une documentation importante, ne serait-ce que, justement, à partir du moment où on rajoute des éléments qui n'ont rien à voir, la base historique n'est pas solide, on est ridicule. Donc il faut que cette base historique, elle soit extrêmement solide, documentée. Il y a aussi le plaisir de chercher et de savoir de quoi on parle. Effectivement, pour Fourore, bon, c'est plus facile pour moi parce que je connais bien l'Antiquité, donc ça a été plus rapide. Par exemple, pour le châtiment des flèches qui concerne les Hongrois de l'an 1000, ça m'a demandé beaucoup de travail, de réunir beaucoup de livres. J'ai eu à peu près un an de réunion, j'ai fait d'autres choses en même temps, hein, quand même, pour réunir toute la documentation, la lire, lister ce que faisaient tous les personnages, la version de tous les historiens. Mais par contre, j'ai choisi une histoire, encore une fois, trouée. C'est-à-dire que c'est un moment où on a beaucoup d'informations, mais il y a des moments où on ignore complètement ce qui se passe.
Et c'est dans les trous que vous engouffrez.
Et je m'engouffre dans les trous, et là, cette fois-ci, pour le châtiment des flèches, je me suis engouffré avec de la magie. La magie chamanique d'un côté, et puis les croyances religieuses chrétiennes qui s'installent à l'époque.
Ce qui doit être le plus difficile, même si vous êtes historienne, c'est d'assurer les enquêtes de Caïvo dans une Rome qui existe, c'est-à-dire au quotidien. Et si on connaît pas mal de choses d'un point de vue historique, est-ce qu'on connaît bien la vie quotidienne des gens?
Oui, parce qu'on a des preuves archéologiques très importantes, on a des sources bibliographiques qui le sont également, même s'il y a parfois des choses qui nous échappent. Et c'est là qu'intervient, on en parlait justement avec une lectrice tout à l'heure, ce matin. Il faut toujours tenir compte de l'humain quand on fait de l'histoire, parce que c'est bien gentil de lire plein de textes, de lire des études d'historiens, mais ils oublient souvent l'homme dans tout ça. Et il suffit parfois d'être un tout petit peu logique pour répondre à des questions qui n'ont pas de réponse évidente.
Malgré tout, j'insiste un peu parce que je trouve que la réponse est un peu facile comme ça. Il suffit de savoir et d'avoir du bon sens. Oui, mais le bon sens ne suffit pas. Il y a quand même des choses qu'on ne pouvait pas faire à l'époque, qu'on ne pouvait pas penser à l'époque. Ça oblige quand même à une vigilance accrue quand on installe un héros dans le quotidien d'une
époque. Il faut faire très attention parce que la moindre petite erreur, ça va se voir, ça va pas cadrer avec les décors. Donc ça, pour ça, de toute façon, c'est ce que disait Fabien tout à l'heure, c'est qu'il faut de toute façon connaître la période pratiquement par cœur. Donc vous ne pouvez pas évoluer dedans, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour que le lecteur puisse se mettre dedans, vraiment plonger sans aucune hésitation, il faut vraiment lui donner un cadre pour qu'il connaisse parfaitement.
Vous avez fait la même chose pour qu'il y ait un Spark.
Bien sûr, et Spark c'est très difficile parce qu'il y a très très peu de documentation. Spark est une cité qui n'a pas laissé de traces, pour laquelle la littérature qui existe, ça a été fait par des laconophiles, c'est-à-dire des fans de Sparte, souvent athéniens. Donc il y a à boire et à manger, il faut vraiment faire le tri, et je crois même que c'est les romans qui ont demandé le plus de travail.
Mais ça vous permet aussi d'avoir le plus de facilité, puisque rien n'est établi, tout à fait.
Moi je dirais, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Parce que, étant donné que je ne peux pas aller dans la fantaisie, si je fais la moindre petite erreur, vous pouvez être sûr qu'il y a 10 historiens derrière avec le rouleau à pâtisserie qui vont mettre la tête dessus. Donc ça, c'est quelque chose que je ne peux pas moins permettre. J'aimerais bien, mais dans ces cadres de.
Et pour les bouquins celtiques, le chaudron de... J'ai oublié le nom maintenant.
Les débris du chaudron.
Les débris du chaudron. C'est aussi voilà, une histoire qui n'est quand même pas si bien connue. Comment est-ce que vous faites alors?
Je fais 2 ans de recherche. J'ai lu évidemment les textes classiques, donc Anastasiadine, et puis des documents en anglais, parce qu'en anglais il y a beaucoup plus de matière et de travaux qui ont été effectués sur Kerouac. Et puis surtout, j'ai essayé de, comme j'ai lu beaucoup d'ouvrages de mythologie comparée, on peut aussi boucher des trous en trouvant des mythes qui reposent sur les mêmes archétypes, sur les mêmes schémas. Donc on peut les rapprocher, par exemple, en faisant les recherches sur Kerminos, on se rend compte que le film irlandais, c'est un avatar de Kerminos. Ils ont beaucoup de similitudes, et comme ça, plein d'autres personnages. Donc j'ai utilisé toute cette matière, et j'ai cherché à retrouver ce qu'avait pu être le mythe dans une mentalité non chrétienne. Puisque la forme écrite nous a été transmise assez tardivement au Moyen-Âge par des moines chrétiens qui ne comprenaient plus certains éléments, qui ont diabolisé Kerouac. Ils ont traduit son nom par sorcière bossue, ce qui est un peu l'archétype de Carabosse finalement, alors qu'en réalité son nom c'est la blanche inspiration, c'était la déesse des bardes, et à notre époque les bardes gallois continuent à l'invoquer juste avant de créer. Elle est leur muse, c'est elle qui va leur donner l'inspiration. Donc quand on lit le mythe tel que transcrit par les moines chrétiens, il y a plein de choses qui choquent, qui disent non, c'est pas possible, c'est une déesse mère, elle peut pas ne pas savoir ça. La transgression de Guyon-Barre, le futur Taliesin, oui bien sûr la transgression est toujours présente dans le mythe, mais ça me choquait. Pour moi il y avait des choses qui correspondaient pas. Donc j'ai laissé mon imagination, j'ai plongé dans l'inconscient collectif, dans la mesure où les Celtes, comme je le disais tout à l'heure, étaient beaucoup dans le rêve, dans le mythe, même pour l'histoire, j'ai fait pareil. J'ai fait pareil et j'ai donné mon accroche de cette histoire. Je suis certaine que, par exemple, si Leroux et Guyon-Barre étaient tombés dessus et l'avaient lu, je me serais fait taper sur les doigts. En revanche, je pense que Jean-Marc Hall aurait apprécié.
Ce sont des historiens spécialistes
Leroux et Guyon-Barre, ce sont des archéologues et des spécialistes de la chose celtique. C'est un petit peu les prédécesseurs du professeur Sterz, puisque on dit d'ailleurs, ça me fait très plaisir, vu que moi je suis d'origine franco-belge et pas d'origine franco-bretonne, ça me fait toujours très plaisir qu'on dise maintenant que le professeur Sterz et le centre belge d'études celtiques, ce sont les têtes de file en matière de recherche sur les Celtes, et plus les Bretons. Alors, ce n'est pas assez bon. Je suis un peu chauvine.
Mais je vais continuer avec vous, si vous le permettez. Ouais. Dans les héritiers d'Homère, est-ce que vous avez tout permis à vos écrivains, ou est-ce que vous avez quand même dû recentrer sur des choses qui n'étaient pas conformes à certains mythes, à certaines histoires, alors, qui ne fonctionnaient pas?
L'avantage d'avoir fait un appel à texte ouvert, c'est qu'on a reçu énormément de textes, donc on a fait le tri, et on a conservé que ceux qui étaient pertinents, que ceux qui étaient écrits par des auteurs qui non seulement savaient écrire, mais en plus avaient bien intégré le mythe, pour qui les éléments mythologiques, donc grecs en l'occurrence, n'étaient pas superficiels, juste un vernis du décor, où vraiment l'histoire ne pouvait pas exister avec d'autres personnages ou avec un autre fond mythologique. Ce qui fait que ces auteurs-là, il n'y a pas eu énormément à les recadrer. Ils avaient bien compris le mythe sur lequel ils s'étaient appuyés. C'était du bonheur de travailler dessus. Voilà.
Je crois que votre question, on peut quelque part la résumer en une phrase, et je pense que Nathalie sera d'accord avec moi. Quand vous écrivez sur l'histoire, vous pouvez y mettre de la fantaisie, c'est du roman, c'est pas grave. On peut se laisser un petit peu aller. Ce qu'il faut, c'est que personne ne puisse vous prouver le contraire de ce que vous... C'est ça.
Et à part Icare, Anne-Sophie, à part sur la chute d'Icare et la non-mort d'Icare, est-ce que vous avez eu des remarques sur la véracité, je vais faire entre guillemets, de vos livres?
Quelques professeurs. Voilà. Quelques professeurs. Et même parfois des remarques qui étaient injustifiées, justement. On m'a reproché d'avoir détourné certaines pages d'Homère, alors qu'au contraire, c'est moi qui avais bien lu. Et j'avais parfaitement lu, et ce que j'ai écrit correspond exactement, mais très peu, et voilà. Enfin, voilà, c'était quelques professeurs. C'est tout. Sinon, les jeunes lecteurs n'ont pas bien reçu.
Christina, des professeurs aussi ou des gens qui vous ont écrit, emailé pour dire que non, là, ce n'est pas comme ça qu'on faisait à l'époque.
Pour l'instant, j'ai touché du bois, ça ne m'est jamais arrivé, mais vous avez toujours, de toute façon, dès que vous parlez histoire, vous avez des historiens, et qui dit historien, dit théorie différente. Donc forcément, si vous prenez celle du voisin et pas la sienne, ou que vous ne le citez pas à la fin de la référence, il ne va pas être content, et puis voilà. Donc ça, il y aura toujours des mécontents, c'est toujours.
La même chose pour Fabien Favelle.
Non, moi j'ai pas eu la chance, ou la malchance d'attirer des historiens. J'ai pas eu de remarques du tout sur les livres.
Les historiens ne vous lisent pas, là.
Pourquoi, écoutez. Ou alors ils n'ont rien à nous dire, ils ont essayé de faciliter aussi. Pour revenir sur ce que disait Christina tout à l'heure, c'est vrai que pour éviter que toute la documentation, parce que la documentation peut être extrêmement lourde, et pour éviter que ça se transforme en un cours, il y a un moment où, après avoir été vraiment imprégné par toutes les connaissances qu'on a pu acquérir, il faut un peu oublier tout ça et que ça devienne naturel. C'est-à-dire au moment où on va se mettre dans la peau de son personnage, on va penser comme un grec du premier millénaire avant Jésus-Christ, un romain du premier siècle, un barbare de l'an 1000, parce qu'on aura eu des tas de références. Et c'est ce que disait un peu Nathalie aussi, c'est-à-dire une fois qu'on connaît bien les textes, on connaît différents récits, on voit comment les auteurs de l'époque ont l'habitude d'écrire. Et donc on va trouver certains motifs qu'on va pouvoir réutiliser, transformer, qui vont donner quelque chose de nouveau, mais qui s'appuie vraiment sur la connaissance qu'on a du texte. Et d'autre part, juste pour terminer, toutes les remarques qu'on peut avoir effectivement sur l'histoire, qui est malgré tout une reconstruction, si on avait écrit ces romans au 19e siècle, ils n'auraient pas du tout la même allure qu'aujourd'hui, parce qu'on n'a pas les mêmes apports. Donc aujourd'hui, ça ferait hurler les historiens. Et pour la mythologie, toute remarque, à mon avis, est extrêmement déplacée, puisque les Grecs en ont pris énormément ont pris beaucoup de liberté avec. Tout le monde est sans cesse réécrit les mythes. Dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, il y a une pièce qui parle du retour de Troie, et on s'aperçoit qu'Hélène n'a jamais été enlevée. Hein, c'est une pièce de Répide, celui qui se lâche le plus hein, sur la mythologie. Je crois que c'est Hélène, il me semble. Ils sont en train de repartir, donc il a récupéré sa femme, il est mécontent, Ménélas. Naufrage, comme d'hab, on va dire. La Méditerranée est très, très, oui, malheureuse. Donc ils arrivent en Égypte, et là, hop, sa femme disparaît. Et il comprend petit à petit, c'est le principe de la pièce, que sa femme n'est jamais allée, c'est un fantôme qui a été envoyé là-bas, et que sa femme était, oh bah tiens, en Égypte, à l'endroit où ils ont fait leur femme. Aujourd'hui, on pourrait écrire un roman comme ça, il y aurait des centaines de personnes qui diraient, comment pouvez-vous voilà.
Pourquoi nous sommes aujourd'hui trop à cheval sur les textes au sens littéral du terme?
Moi, je pense que c'est surtout c'est les gens qui connaissent le moins, qui sont les plus... soit il y a des ultra-spécialistes qui sont mieux collés sur leur propre travail, donc qui ne supportent pas effectivement la contradiction, soit les gens qui ne connaissent rien et qui effectivement vont dire « Mais dans Homère, on ne dit pas du tout ça », mais qui n'ont pas lu. Voilà, donc cela, il ne faut pas leur parler.
Nathalie, oui.
Il y a aussi le fait que, à notre époque, on aime bien ranger les gens dans des cases et leur coller des étiquettes. Et donc, ben voilà, Zeus, c'est par exemple le dieu des dieux, le mari des rats et celui qui manie la foudre. Sauf que ben, c'est pas toujours ça, c'est aussi le dieu des contrats. Et ça, c'est un aspect de Zeus qui n'est pas toujours bien perçu par le grand public. Ce qui va en avoir ben, une image assez Disney, finalement. Ou tel qu'il peut l'avoir rencontré quand il était enfant en disant « Contes et légendes » de chez Nathan, enfin, des versions qui sont quand même assez édulcorées ou limitées, parce qu'on va donner une version du mythe, alors qu'il en existe plein de variantes. Et les gens, ils sont tellement prisonniers de cette première rencontre, comme ils ont rarement la curiosité d'aller au-delà, d'aller lire d'autres versions, ben, ils se disent... Que quand nous on aborde les autres versions, on commet des erreurs, on trahit quelque chose qui pour eux est quasiment un dogme. Voilà. Et non, on ne sort pas des cases, c'est juste qu'il en existe d'autres, des cases, et ils n'en ont pas conscience.
Est-ce qu'en fin de compte, toutes les littératures de l'imaginaire d'aujourd'hui ne viennent pas dans notre civilisation judéo-chrétienne de ces textes grecs et romains ? Nathalie, encore.
Même plus ancien, hein, même la Bible. Hein. C'est, la Bible, ça a été écrit à l'époque où les Hébreux se retrouvaient esclaves en Babylone, et il y avait un besoin de préserver un esprit, une sorte d'unité nationale, même s'ils n'étaient plus sur leur propre terre. Et ils ont pratiqué le syncrétisme, puisqu'ils ont mis à l'intérieur des mythes babyloniens, des mythes égyptiens, enfin, un peu de tout. Hein. Et déjà là, on peut trouver des anecdotes bibliques qui sont purement ce qu'on peut appeler, si on n'est pas un croyant ultra rigoriste, de la fantaisie, déjà à cette époque-là.
Le chat Béli, par exemple.
Par exemple. Ou même la femme de Lot transformée en statue de sel.
En effet, donc, ça donne pour vous un espace extraordinaire pour... exprimer toute votre imagination.
Bien sûr. Quand j'étudie la mythologie comparée, puis les différents corpus mythologiques, mon rêve, ce serait de réussir à remonter au moment où le sentiment religieux est apparu, le sentiment religieux, le sentiment du sacré, du surnaturel, est apparu chez l'être humain. À un moment donné, on a un homme préhistorique qui ne songe qu'à survivre, et à un autre moment, on a un homme préhistorique qui pratique des rituels autour de la mort, des rituels propitiatoires, qui croient en toute une espèce d'esprit, de revenants, d'ancêtres, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça, c'est une question pour laquelle je n'ai toujours pas trouvé de réponse, et je la cherche en explorant les mythes.
Alors, on est, chez vous, on est un peu loin des mythes, on est dans la vie quotidienne, que ce soit à Sparte ou à Rome, dans l'Empire romain. Vous allez continuer dans cette veine-là, vos prochains romans continuent à explorer ces mondes-là, ou bien vous avez d'autres mondes en gestation dans votre tête ?
Même plus qu'en gestation, puisque là j'ai un roman qui va sortir au mois d'octobre, Pré-Homère, du fantastique, où justement je réexplore là totalement pour le coup une partie de la Genèse et de la Bible, puisque j'ai m'attaque aux anges déchus. Et là on est carrément dans le fantastique, ça va être un thriller fantastique qui n'a plus rien à voir avec l'histoire, mais je continue parallèlement les aventures de Caïsa.
Vous n'êtes pas fâché avec Rome et avec Caïsa ?
Absolument pas, je l'aime toujours autant, il a toujours aussi jolies fesses.
Dites en plus sur Caïsa.
Sur Caïsa, vous voulez que je vous dise ? Origine germanique, barbare. 1m92, des yeux bleus et bâti comme. Je peux vous le montrer si vous voulez le voir, j'ai des portraits.
Oui, mais il a un léopard à côté du vent.
Et en plus, il a un léopard qui se prend pour un chien, c'est une catastrophe.
Donc, je difficile d'abord avec un léopard.
Comment ?
Difficile d'abord avec un léopard.
Elle est jalouse, en plus, c'est une femme. Pour les femmes, mais je vous raconterai.
À Sophie, il y a eu 3 Atalantes, 4 Atalantes, on continue ?
Pour l'instant, non. Non, en ce moment, je suis plutôt... à la fois au XVIIe et au XVIIIe siècle sur deux autres séries.
Oui, parce que ce n'est pas votre seul travail d'écrivain, il y a beaucoup d'autres choses. Racontez-nous un peu ce que vous faites d'autre.
Bien, écoutez, je fais une série sur Marie-Antoinette, la jeunesse de Marie-Antoinette. J'ai écrit un roman sur le comte de Lavalette au XIXe siècle. Et en ce moment, je mène de front deux séries. Une qui se passe au XVIIe siècle, qui s'appelle Eulalie Potimarron. Et une qui se passe au XVIIIe siècle, qui s'appelle Les folles aventures du chevalier Béant.
Toujours donc l'histoire.
Beaucoup, beaucoup d'histoires.
Et vous prenez des libertés avec l'histoire ?
Non, je me suis retrouvée exactement ce que vous a dit tout à l'heure. Quand on écrit un roman historique, il faut connaître par cœur son époque. Et c'est exactement ça. J'essaye de connaître par cœur le XVIIe et le XVIIIe siècle pour faire évoluer mes personnages. Alors là, au contraire, en toute liberté.
Les projets Fabien, après les barbares hongrois, les Romains et les Grecs, et bien d'autres choses.
Oui, ben, ces derniers temps, je travaille surtout dans des univers contemporains. J'ai fait une histoire d'ange aussi, mais vraiment de la fantaisie contemporaine. Ils sont en train, en banlieue, de se faire une espèce de guerre des gangs, des anges et des démons. C'est un peu rigolo comme ça. Voilà, et puis non, un jour je retournerai sans doute sur l'Antiquité, parce que ben, c'est vrai, l'Antiquité vous rattrape tout le temps. J'aimerais bien un jour faire un roman sur Diogène, le cynique. Parce que c'est un philosophe qui est quand même assez rigolo. Pour ceux qui ne connaissent pas, il est quand même réputé pour se balader à moitié nu sur le forum, se comporter comme un chien, donc renifler les gens, se masturber en public, et poser beaucoup de problèmes à la décence. Et je verrais bien dans un roman en train de mettre un peu le bazar dans la société grecque de l'Antiquité. Voilà.
Ça doit être amusant.
Voilà. Et je voulais en faire un roman jeunesse, je pense que ça va être très
bien. Merci.
On a Fabien et moi une publication dans l'anthologie qui sort aux éditions Nemos. Alors si je me rappelle bien du titre, c'est Fragments de mythologie antique.
Le fragment de mythologie antique.
D'une fantaisie antique. Voilà. Donc on l'a écrit sous la direction de David Canouvel dans le cadre du fameux colloque à la Sorbonne que tu as mentionné tantôt. Et moi je me suis bien amusée, j'ai écrit sur Marsyas et Apollon. Et j'ai fait du yaoi. Voilà.
Qu'est-ce que c'est ?
Le yaoi, c'est les histoires d'amour entre beaux jeunes garçons, qui plaisent beaucoup aux filles.
C'est ça que vous expliquiez tout à l'heure.
Voilà, c'est
pour ça que je parle des belles fesses.
Et voilà. Et donc, sinon, le 21 septembre, j'ai un roman de fantasy qui sort aux éditions Asgard. C'est le premier tome d'un cycle long. Je ne sais pas dire encore combien il y aura de tomes exactement, parce qu'il y aura plusieurs cycles à l'intérieur du cycle. Et là, c'est de la pure fantaisie dans un monde secondaire que j'ai imaginé. C'est un univers parallèle dans lequel je vis depuis juillet 1987.
Donc, exact.
Oui, mais oui, je sais exactement quand est-ce que j'ai commencé à vivre moitié sur Terre et moitié là-bas.
Pour en revenir à l'anthologie auquel vous deux participez, la fragment d'une fantaisie antique, s'il y a aussi des textes de Rachel Tanner, Jeanne de Batz, Lionel Davou, Sylvie Miller et Philippe Ward. Et je crois que la sortie est prévue en octobre seulement.
La sortie chez les libraires, mais il sera disponible la semaine prochaine sur le colloque.
D'accord. Voilà. Est-ce que dans la salle, il y a quelques questions à poser à nos débatteurs ? Ce serait avec plaisir qu'ils y répondraient, je le suppose.
L'histoire inspire les gens, c'est incroyable, la jeunesse.
L'histoire, c'est bien, en plus, quand on creuse un peu derrière les dates, les batailles et les rois, il y a plein d'histoires de cul, en fait.
On va bien plus croire qu'il n'y a que ça qui t'intéresse, en fait.
Non, non.
Après avoir cité Dumézil et de mythologie comparée.
Bah, tu sais, les dieux sont de grands fornicateurs, mais
tout aussi. Tout à fait, hein. Ça. Allez, la deuxième question, alors. Parce que la première vient difficilement. Voilà, vous voyez ? Deuxième question et ça vient.
Est-ce que vous n'avez pas envie justement de faire une espèce de retour vers le conte pour raconter en fait vos histoires au lieu de les écrire ? Parce que je suis très d'accord avec vous, c'est-à-dire que l'écrit fige et après ça devient dogmatique et c'est, du coup on perd tout l'esprit. Quelque part, écrire la mythologie, c'est contradictoire dans les termes, quoi.
En fait, certains des contes que j'ai écrits et publiés dans les contes magiques
sont repassés à la forme orale ensuite, puisqu'il y a un conteur qui était dans la région et qui a fait une balade contée au château d'Épinal en 2008, Jean-Marie Bach, dit le Bobleur, qui a repris certains de mes contes et qui les a mis à son répertoire après les avoir retravaillés pour les rendre plus accessibles à l'oral. Et maintenant, il est du côté du Morbihan et il compte mes textes. Voilà, donc il y a plusieurs textes. En fait, aussi bien lorsque j'écris que lorsque je publie, je fais de la musique aussi, je suis chanteuse traditionnelle. Je suis très sensible au rythme, à la musicalité, et tous les textes passent l'épreuve du gueuloir, comme disait, je crois, Frédéric. Et donc, oui, ils sont également faits pour être lus, pour être dits. On pourrait même les apprendre par cœur et les réciter. La pièce de Claire Jacquet, je rêverais de l'avoir jouée sur scène. Ce serait vraiment très drôle. Surtout qu'elle a bien mis l'éditeur Julie Dascali là, pour expliquer le jeu de scène de ses personnages. Donc, oui, bien sûr, pour moi, l'écrit et l'oral, c'est pas antinomique du tout.
Christina me glissait à l'oreille que la musique du texte, c'est en effet important. Quand vous écrivez, vous relisez à voix haute pour voir comment ça fonctionne, si il ne faut pas changer de rythme quelque part.
C'est pas quelque chose de très bizarre lorsque vous écrivez un livre, lorsque vous écrivez un texte, c'est que dès l'instant où vous le lisez à voix haute, vous voyez toutes les erreurs, que ce soit des erreurs de composition, que ce soit des erreurs justement de tempo dans la phrase. Et lorsque vous lisez à voix haute, vous arrivez à trouver le bon tempo, après c'est beaucoup plus... Les lecteurs vous le diront, c'est beaucoup plus agréable. Ils ne sauront pas pourquoi. Mais ils sauront qu'on dit que ça passe bien. Voilà, ce texte passe bien. C'est vraiment une question d'équilibre.
Y a-t-il encore une question? La troisième, donc? Non? Alors, je vous remercie de votre attention. Et je remercie Anne-Sophie, Christina, Nathalie et Fabien de leur présence. Et bonne fin d'après-midi. Au revoir.